À l'occasion du salon d'édition indépendante Offprint 2024, DU réalise une série d'entretiens autour de l'édition contemporaine en partenariat avec le CNAP, Centre National des Arts Plastiques. Pierre Balblanc présente l'exposition dont il est le commissaire, La République cynique, contre-récit de l'histoire de la performance, du 13 novembre au 1er décembre 2024 au Palais de Tokyo. Bonjour Pierre Balblanc, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
Donc vous êtes commissaire indépendant et essayiste et votre travail s'intéresse en grande partie à l'histoire de la performance. Avant qu'on entre dans le sujet de l'exposition qui va bientôt ouvrir ses portes au Palais Tokyo, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques lignes de votre parcours de la direction du CAC Bretigny aux nombreuses participations en tant que commissaire invité comme à la 7e Biennale de Lyon ou Documenta 14?
Alors, en fait, j'ai une formation en école d'art qui a été un petit peu un moment assez particulier parce que j'y suis arrivé d'une façon un peu indirecte, n'étant pas issu d'un milieu qui pouvait me mener à cette école. Je suis né en Savoie, dans les Alpes, dans une ville ouvrière où il n'y avait ni musée, il y avait très peu d'art contemporain. Enfin, ce n'est pas une notion qui existait. Et donc, j'ai été un petit peu sauvé par ma pratique de la photographie très tôt. J'ai gagné un appareil photo à la loterie du village. Et c'est comme ça que j'ai un peu développé une pratique alternative à l'école pour laquelle j'étais vraiment pas doué. Donc j'avais un problème avec la scolarité et l'autorité. Donc c'est la photographie qui m'a amené aux Beaux-Arts finalement. Je passe les détails, mais c'est important parce qu'en fait on croit que tout le monde pense qui peut candidater aux Beaux-Arts, mais c'est pas du tout le cas. Il faut être dans un certain milieu culturel pour pouvoir être amené à le faire. Moi, j'ai été amené à ça finalement, au bout du compte. Et puis, à partir de là, j'ai découvert une autre forme alternative de pédagogie aussi au sein des Beaux-Arts qui m'a permis de développer une pratique. Voilà.
Et donc, cette exposition, La République cynique, contre-récit de l'histoire de la performance, elle est constituée, alors je ne sais pas si on peut dire constituée, mais des ressources et des collections nationales du CNAP et de la collection de Contact à Vienne, qui est une association artistique. Il commence comment ce projet d'exposition ? Est-ce que c'est le prolongement de questionnements que vous aviez déjà mis en place dans les précédents projets que vous avez menés ?
Alors, tout à fait, c'est vraiment... En fait, le prolongement de plusieurs choses, à la fois d'une recherche que j'ai entamée à mon arrivée à Athènes, en Grèce, quand j'ai été amené à diriger une partie de la Documenta 14 sous l'autorité de Adam Simcsik, le directeur artistique. J'étais chargé d'implanter... la Documenta à Athènes, donc j'y étais très tôt, en 2014, fin 2014, donc ça fait maintenant 10 ans, et j'ai à partir de là été immergé par un environnement culturel justement assez différent de celui de Paris, où j'avais en effet dirigé Bretigny pendant 10 ans depuis la banlieue parisienne, ce qui est une position très marginalisé aussi dans la capitale. À Athènes, là, c'était une manière d'approcher un projet qui lui-même jouait cette marginalisation, puisqu'il était censé être à Kassel. Et le directeur artistique avait justement comme premier concept très puissant, très fort, de déplacer la Documenta à Athènes. Donc, dans un mouvement comme ça d'écart et surtout de se rapprocher des marges européennes, puisqu'à l'époque, la Grèce souffrait d'une pression énorme liée à la dette du pays. Et donc, c'était un geste extrêmement puissant. quand j'y suis arrivé, j'ai justement entamé une recherche qui aussi va dans le sens de ce geste, c'est-à-dire chercher, puisque moi-même j'avais été dans une pratique à Brétigny qui s'intéressait aux marges et à la question du rapport du centre et de la périphérie. J'ai donc investigué dans la culture quels étaient les éléments qui pouvaient résonner avec cette question, et j'ai vite été attiré par le cynisme ancien, qui est une philosophie justement alternative à celle de Platon ou de Socrate, c'est-à-dire que c'est une philosophie marginale qui justement
qui arrive au milieu des deux, enfin entre Socrate et Platon.
Voilà, c'est un post-socratisme, évidemment, c'est quelque chose qui vient prolonger un petit peu cette attitude socratique, mais qui va encore plus loin dans la mise en pratique. Et c'est là où ça va être justement crucial, puisque cette mise en pratique, elle est liée au corps, elle est liée au mouvement dans l'espace, et elle est liée au fait qu'il n'y a pas de distinction entre l'esprit et le corps. Donc c'est là
où
tout
est dans les actes. Enfin, tout.
C'est-à-dire qu'en fait, l'expression ne discrimine pas les productions verbales ou les productions physiques. Et donc tout est en fait pris au même degré et à la même importance. Donc en fait, c'est ça qui va très vite m'attirer et me faire comprendre que là, il y a une source, il y a une matrice à la performance qui est un peu négligée dans le travail des historiens. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et on a pu voir lors de la Documenta, d'ailleurs, une première manière de pouvoir l'exprimer, parce que j'avais emprunté au Louvre, donc au département de la calcographie, je crois que ça s'appelle, qui font donc les plaques de gravure. J'avais emprunté une gravure d'Étienne Baudet, qui est un graveur du 18e siècle, qui a reproduit le tableau de Poussin, Diogène jetant son écuelle. Et donc, j'avais emprunté en fait la plaque en cuivre et la gravure qui était présentée donc dans la première salle du musée Emst, du musée d'art contemporain à Athènes, comme une espèce d'ouverture à cette exposition du musée. Et cette gravure, vous la retrouverez ici au Palais de Tokyo, pas la plaque en cuivre, mais vous retrouverez cette gravure parce qu'elle est, elle est en quelque sorte le motif et la structure qui fait l'exposition ici. C'est-à-dire que c'est en fait un paysage dans lequel se déploient des actions. Et cette gravure décrit une action très importante qui est liée à justement Diogène, à la vie de Diogène, quand il, au bord d'un étang, voit un enfant boire dans la paume de sa main. Il jette son écuelle en disant « cet enfant est plus intelligent que moi, puisqu'il a su réduire ses conditions vitales au minimum. » Parce que l'idée, c'est justement d'être le plus proche de la nature et le plus proche dans la dépense des biens ou l'aliénation aux biens qu'on est censé avoir, c'est de les limiter au maximum.
Donc, mais justement, est-ce que c'est pas les fondements de, on en parlait en off, c'est pour ça des épicuriens, de Épicure.
Alors ça, je suis moins familier avec cette philosophie-là, mais là, en fait, cet acte. Il faut dans la peinture de Poussin à l'origine, hein, il est mis en rapport en diagonale dans ce paysage au piton rocheux sur lequel est censé être le Parthénon. Mais dans la gravure de Poussin, il a mis le belvédère de Rome. Mais ce choix qui est très intéressant, c'est de mettre en fait le premier édifice qui est un proto-musée, c'est-à-dire que c'est là où Jules II a commencé à constituer une collection d'antiques et a commencé en quelque sorte à capitaliser, c'est-à-dire à créer un lieu de capitalisation de la culture. Et donc, on est véritablement dans une équation, dans cette peinture de Poussin, qui nous met en rapport le dénuement total et l'accumulation. Donc, ce qui est important ici, à Paris, pour moi, en reprenant cette gravure comme une structure, c'est qu'en fait, je redéploie ce projet que j'avais donc, comme je le dis, présenté initialement à Athènes, parce que lors de la Documenta, en fait, la gravure que je présentais au EMST était située au même endroit où cette gravure est censée se tenir, où cette scène est censée se tenir. Donc, en fait, le EMST est au pied du Python rocheux du Parthénon. Donc, en fait, on était confronté à Athènes à cette relation, ce qui était très important. Et au lieu de Parthénon, on voyait le Belvédère sur la gravure à Athènes. Mais ici, en quelque sorte, je reconduis un peu cette relation qui est très importante pour moi parce que la problématique de se situer dans l'espace est très importante. C'est véritablement quelque chose qui est de l'ordre des fondamentaux de la performance. C'est d'abord se situer ici et là dans un espace particulier, à un moment particulier. Donc, cette gravure ici, à Paris, elle est placée comme si on était en haut du Python rocheux, c'est-à-dire non pas dans le Parthénon, non pas dans le Belvédère, mais dans le palais de Tokyo. Et en fait, on invite le visiteur à descendre les escaliers de ce niveau zéro au palais de Tokyo, qui est donc cet espace assez profond auquel on accède par des escaliers. Et là, on descend dans ce paysage où on va rencontrer à la fois Diogène et ce jeune garçon qui boit dans sa paume de main.
Donc, déjà dans le titre de l'exposition, on a les indices qui nous permettent de comprendre, d'avoir ces indices-là pour comprendre votre contre-récit de l'histoire de la performance. Juste pour les auditeurs et spectateurs, est-ce qu'on peut rappeler, la datation classique de la performance qui se situe plutôt dans les années 70 ou un petit peu avant avec les Dada et les futuristes?
Voilà, bien sûr. Donc, généralement, les historiens comme ont pu le décrire, ils font commencer en fait l'histoire de la performance par Dada ou des actions qui sont à la fin du 19e siècle et qui se distinguent du théâtre. Et ces récits historiques sur la performance vont se développer ensuite, à partir de là, vers les années 70 et reprendre jusqu'à nous toutes ces étapes. Moi, ce que je propose, c'est de considérer les choses sous un autre angle et d'une autre façon, parce que j'ai trouvé justement que la matrice de cette façon de produire du sens avec des moyens qui ne sont pas ceux justement de la rhétorique ou des arts visuels, ni de l'art théâtral, puisque c'est encore autre chose. Ça, c'est quelque chose qui démarre beaucoup plus tôt et donc, comme on vient de le dire, dans l'Antiquité, avec les actions qui sont transmises et qui sont disponibles pour nous et qui sont en fait les matrices de toutes les performances auxquelles on peut assister sans que leurs auteurs n'en aient conscience forcément.
Mais donc ces gestes, ces attitudes et ces récits du cynisme ancien, c'est ce que vous considérez être les premiers gestes de la performance artistique?
Oui, en effet, c'est en tout cas un mode qui s'est transmis justement de manière orale, mais de manière aussi factuelle ou de façon à justement à se reproduire et à ce sont des attitudes, c'est mimétique aussi. C'est quelque chose qui justement a traversé toutes les cultures et a influencé énormément toutes les cultures, parce que on peut aussi considérer que par exemple le christianisme a énormément emprunté au cynisme ancien dans tous les récits des saints. On peut retrouver des actes cyniques systématiquement en filigrane. Ce sont en fait des interprétations d'actes cyniques qui sont tournées en actes saints. Donc c'est assez intéressant de voir à quel point justement c'est le cas pour le christianisme, mais pour d'autres religions aussi, ou pour d'autres modes narratifs. Donc, en fait, c'est cette manière d'être présent fantomatiquement, en fait, d'être un sous-texte à beaucoup d'attitudes qui m'a intéressé et qui me semble intéressant de prendre comme filtre, comme angle pour regarder les pratiques contemporaines.
L'exposition, elle est accompagnée aussi d'une publication qui porte le même titre, La République cynique, fragments cyniques. Elle est donc distribuée durant l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Bien sûr.
C'est une édition bilingue aussi.
Voilà, c'est ça. Et donc, cette publication ne peut être vendue ni utilisée à des fins commerciales. Et c'est ça qui est très important, parce que c'est aussi ce que j'ai découvert avec le cynisme ancien, c'est le principe de l'open source, maintenant, tel qu'on le parle, c'est-à-dire la forme ouverte, la source ouverte, ce qu'on a reconnu à nouveau dans le champ d'Internet avec ces histoires d'open source et de possibilités d'utiliser, de partager des connaissances sans qu'elles soient commercialisées. Donc le cynisme ancien, c'est véritablement comme la philosophie en général, bien sûr, mais le cynisme ancien, ça a été une source ouverte qui s'est transmise depuis l'Antiquité. Et il faut dire aussi que il ne faut pas réduire le cynisme ancien à la Grèce. Hein, c'est une source qui vient de bien plus loin et qui est en quelque sorte quelque chose qui remonte depuis l'Inde, l'Asie, et qui voyage constamment. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'aller-retour entre l'Asie et l'Occident qui nous permet de retrouver des traces de ces énoncés, de ces anecdotes dans toutes les cultures. Donc, en fait, on a un peu cristallisé sur la Grèce, le cynisme qui s'est forgé en Asie mineure d'ailleurs, mais évidemment, il est commun à d'autres cultures que la culture occidentale. Donc, c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est que c'est quand même quelque chose qui est très large et qui englobe énormément de cultures. Alors, le projet de cette publication, c'est un projet qui vise à justement transmettre ces éléments, ces fragments, ces anecdotes, pour qu'elles soient utiles à tous. C'est-à-dire que c'est une anthologie qui cherche à redistribuer ses contenus et pour que chacun les utilise à ses fins, ses propres fins. Et en fait, j'ai simplement été un vecteur, je fais simplement un travail de transmission. Un peu comme Étienne Baudet qui fait sa gravure de Poussin et qui transmet Poussin, moi je transmets par cette publication des fragments cyniques que j'ai. Alors, c'est là ce qui est très important aussi en termes d'écriture, c'est que j'ai travaillé avec deux traducteurs, un grec chypriote qui est né en Angleterre, donc qui a la capacité à traduire à la fois du grec à l'anglais, et un français, Gauthier Herman, qui a fait une anthologie de l'art conceptuel qui avait été publiée par je ne sais plus l'éditeur, excusez-moi, mais en tout cas qui avait été un travail important sur justement tous les les instructions, les statements, enfin toute cette littérature justement conceptuelle, c'est un gros ouvrage qui rassemble en fait ces écrits qui sont transversaux à toutes les pratiques artistiques. Donc j'ai travaillé avec lui et nous avons d'abord j'ai collecté ici il y en a 100 fragments cyniques. Dans tous les ouvrages que j'ai pu réunir autour des études du cynisme ancien, parce qu'il n'y en a pas autant que ça, dans la mesure où c'est une étude qui date que du XXe siècle. C'est pas une étude qui est très ancienne. Le cynisme ancien, Montaigne en parle un peu dans ses écrits, dans ses essais, mais je dirais vraiment un travail de recherche s'est mis en œuvre au XXe siècle et particulièrement évidemment aux États-Unis, mais aussi en France. Je dirais que c'est Marie-Odile Goulet-Cazé qui a été l'une des plus éminentes chercheuses qui a consacré de nombreux ouvrages au cynisme ancien et qui justement pour moi représente une source d'inspiration considérable, parce qu'elle a su relever des concepts extrêmement importants et qui sont absolument inspirants ou en tout cas utiles dans nos pratiques des arts plastiques ou de l'art contemporain.
On peut lire peut-être quelques extraits de la publication choisi ou improvisé.
Oui, pourquoi pas. Parce que c'est justement une publication qui n'a pas de sens. Qui peut se lire, on peut l'ouvrir et puis tomber sur n'importe quel fragment, comme je peux. Ou vous pouvez le faire vous-même.
Vous préférez que je le dise ?
Oui, je veux bien.
Bon, alors d'accord. Je vais les prendre au hasard, puisque j'ai découvert la publication. Alors, Cynique disait « Ne vous étonnez pas de ce que disent vos ennemis, mais de ce qu'elles ne disent pas, et ne vous étonnez donc pas de ce qu'ils disent de vous, mais de tout ce qu'ils ont oublié de dire. »
Voilà, donc ça, c'est tout à fait emblématique du cynisme. C'est justement de travailler sur des formes qui vont neutraliser justement ces manières de distinguer ou ces manières de facilement hiérarchiser. En fait, ça laisse tout le temps une possibilité de tout considérer et de jamais laisser les choses dans une situation sécurisée, finalement. C'est qu'on est toujours dans un mode d'attention ce fragment en est la preuve.
Mais vous parlez d'ailleurs souvent de partition dans votre travail. Est-ce que cette publication, ça peut être aussi considéré comme une forme de partition à l'exposition ou...
Tout à fait, parce que en fait, en règle générale, dans ces fragments, il s'agit beaucoup de positions dans l'espace, d'actions. Donc, ce sont comme un peu des petites instructions de performance. Et c'est là où j'ai commencé, comme j'ai parlé de l'histoire de l'EQL, j'ai mis en rapport en quelque sorte des fragments avec des instructions plus conceptuelles ou de la postmoderne danse, par exemple, de manière à justement voir en quoi ces modes ont des liens et qu'il est important de les faire.
Mais est-ce que c'est ça, justement, cette république de Diogène, de passer d'une autarcie au collectif ?
En fait, l'autarcie, c'est quelque chose qui est lié à, justement, nécessité de se rapprocher de la nature. La nature est autarcique, c'est-à-dire les animaux sont autarciques. Donc les animaux sont supérieurs aux humains. Les humains sont dépendants, ils ont besoin constamment, ils sont aliénés à des besoins constants, alors que les animaux sont beaucoup plus autarciques et ont une capacité à vivre dans le monde, beaucoup plus en phase avec le monde. Donc c'est ça l'idéal cynique, en quelque sorte, si on peut dire, et c'est ça la religion cynique, si on veut, c'est la nature, c'est le seul repère.
Et c'est pour ça que le cynique place l'animal dans la hiérarchie au-dessus de l'homme.
C'est pour ça, tout à fait. Et c'est pour ça aussi qu'on l'appelle le chien, parce qu'il a aussi des comportements qui sont proches de celui d'un chien. Donc, il peut être à la fois... il peut avoir une certaine candeur, il peut être à la fois très, très naïf, mais en même temps, il peut aussi se défendre ou aussi défendre les autres. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup été un emblème du cynisme, mais c'est aussi surtout par rapport à cette problématique de l'animalité.
Il y avait cette formule, d'ailleurs, dans les documents que j'ai étudiés avant de nous rencontrer, du cynique qui cherche à ensauvager la vie.
Voilà, c'est en fait, encore une fois, cette idée, justement, de prendre, non pas la civilisation comme un état qui serait l'ultime état et l'achèvement, ou en tout cas la perspective la plus aboutie. Au contraire, pour le cynisme, la société, la civilisation peut être destructrice. Elle peut être aussi une forme qui est nocive, toxique. Donc en fait, ensauvager la vie, c'est revenir à un état où on a une relation au monde beaucoup plus totale, beaucoup plus harmonique avec l'ensemble des êtres, et ne pas être dans une espèce de conquête pour soi-même de l'environnement. Donc, ce qui est intéressant avec donc l'exposition et les performances que j'y montre, c'est de prendre tous ces grands leitmotifs qui ont été ceux aussi des politiques publiques ou de la politique ces dernières années, que ce soit la déchéance de nationalité, que ce soit l'ensauvagement, toute cette rhétorique policière. Justement, le cynisme ancien les utilise comme des vertus. Parce que la déchéance de nationalité, par exemple, c'est exactement ce que les cyniques souhaitent, c'est-à-dire ne pas être soumis à une nation particulière, mais se revendiquer comme étant les habitants du monde. C'est-à-dire que le monde est la maison, le monde est la nation, même pas, parce que c'est pas l'idée de nation du tout, c'est l'idée que nous habitons tous une planète, et qu'en quelque sorte, il n'y a pas de raison de segmenter ou de diviser cette planète. Donc le cosmopolitisme est aussi quelque chose qui est extrêmement puissant dans la pensée et dans les attitudes cyniques.
Et justement, cette république cynique qui est une actualisation finalement donc de l'histoire de la performance, c'est aussi une forme de refus de l'institution, enfin de s'institutionnaliser.
Oui, dans le sens où l'institution va figer va établir des dogmes, va figer des règles, alors que justement le principe du cynisme, c'est de justement les éprouver. Le cynisme est une ascèse. Ça n'est pas non plus n'importe quoi. Ça n'est pas faire n'importe quoi. C'est au contraire extrême. C'est au contraire une ascèse, mais une ascèse non seulement de l'esprit, mais du corps également. Donc, par conséquent, il faut se contrôler constamment et avoir conscience de ses besoins ou de ses manques ou aussi de ses excès, et les contrôler par des attitudes ou par des renoncements. C'est-à-dire renoncer à la propriété, renoncer à la richesse, parce que la richesse corrompt. Et donc, par conséquent, une vie cynique, c'est une vie qui se défait de ces vecteur de corruption de la vie au quotidien. Donc en fait, tous ces fragments qui sont réunis dans cette petite publication, ils paraissent un petit peu simples à lire comme ça, mais en fait, ils sont très profonds. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans ces fragments, dans cette transmission de ces idées-là, c'est que c'est très simple, c'est très abordable, tout le monde peut lire ça, même un enfant, et comprendre progressivement la manière dont tout est twisté, je dirais. En fait, c'est pour nous qui sommes tellement soumis à en quelque sorte un diktat civilisationnel, un diktat sociétal qui est extrêmement normatif. Ces fragments ouvrent des perspectives qui sont extrêmement salutaires à l'heure actuelle, je trouve, pour soi-même et pour les autres.
Si on parle du cynisme ancien, parce que tout à l'heure, on parlait de l'appauvrissement du cynisme contemporain, enfin de sa...
Oui, bien sûr, parce que évidemment, le cynisme moderne, tel que quand on traite les gens de cyniques, ça n'a rien à voir avec cette philosophie. C'est un appauvrissement ou alors une manière d'avoir en quelque sorte utilisé un terme qui est contre. Et comme vous avez parlé de Diogène, le syndrome de Diogène n'a rien à voir avec Diogène, c'est-à-dire c'est simplement une relation à la crasse et à la cumulation. Mais la crasse est très importante aussi dans le cynisme. Mmh. Hein, la crasse, la poussière. Mais par exemple, voilà, pour juste donner un exemple, l'élevage de poussière de Marcel Duchamp, c'est un geste cynique. Parce que la problématique de la crasse, c'est une allégorie, c'est une métaphore qui est liée justement au luxe et à son contraire et au temps et à la manière justement de considérer justement les valeurs telles qu'elles sont portées par la société. Alors après, pour le syndrome de Diogène, par exemple, c'est cette idée, ils ont appelé ça comme ça parce que j'imagine que c'est l'inverse. En fait, Diogène n'accumule pas.
Ah oui, c'est pour ça que il se défait.
Donc
parce
c'est
qu'il vivait dans
un
tonneau.
Voilà. Oui, qui n'était pas un tonneau.
Qui n'était pas un tonneau, mais dans l'histoire racontée.
C'était une amphore parce qu'un tonneau, les tonneaux étaient inventés par les Gaulois, je le rappelle. Donc, c'est bien après. Mais en même temps, c'est assez charmant qu'on utilise le tonneau. Pourquoi pas ? C'est juste l'histoire que, en fait, il vivait dans un élément recyclé qui était aussi un emblème, parce que le tonneau, c'est un emblème du commerce, de la standardisation des échanges. Et comme pour reprendre Bretigny, quand j'ai fait installer un conteneur de Job van Lieshout devant le centre d'art comme lieu de médiation et de rencontre, c'est proche de cet acte de vivre dans un tonneau comme Diogène. Mmh. C'est l'idée de s'approprier un dispositif qui est ce dispositif. Qui nous relie au commerce international, comme l'est le conteneur maintenant. Donc Diogène serait certainement dans un conteneur maintenant.
Alors il nous reste, notre temps est écoulé, si je peux dire ça comme ça. Est-ce qu'il y aura déjà un prolongement de l'exposition hors les murs du Palais de Tokyo, une publication ou...
Alors en fait, il y aura un deuxième chapitre à Varsovie, au musée d'art moderne de Varsovie, d'où je reviens et auquel j'ai participé à l'inauguration. C'est un nouveau musée, et ça, c'est assez rare dans une vie de pouvoir inaugurer un musée, un bâtiment qui a été fait pour être un musée. Donc, c'était le cas là, il y a 15 jours. Et je vais donc développer le deuxième chapitre de ce projet, mais déjà que j'invite tout le monde à apprécier à Paris, mais ça sera au printemps 2025 à Varsovie.
Très bien. Merci, Pierre Balblanc.
Merci.